marche du monde.
Hi Barbie.
Hi Ken.
Do you want to go for a ride?
Sure again.
Jump in.
I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation.
La marche du monde, Valérie Niflon.
Ses jambes sont longues, sa taille est fine et sa poitrine opulente. Poupée adulée par toutes les petites filles du monde, Barbie a toujours été honnie par les féministes du monde entier pour sa représentation de la femme comme objet sexuel. Il n'empêche que dans les années d'après-guerre, Barbie incarne un nouveau modèle féminin. Certes, son regard est taquin et langoureux, mais sa modernité fait rêver.
Barbie, you're beautiful. You make me My Barbie doll is really real. Barbie's small and so petite. Her clothes and figure look so neat. Her dancing outfit rings a bell. At parties she will cast a spell. Purses, hats and gloves galore. And all the gadgets gals adore.
Barbie dressed for swim and fun is only $3. Her lovely fashions range from $1 to $5. Look for Barbie wherever dolls are sold.
Someday I'm gonna be exactly like you. Till then I know just what I'll do. Barbie, beautiful Barbie. I'll make believe that I am you.
You can tell it's Mattel.
Depuis 1945, les femmes s'émancipent. Elles votent, elles travaillent et elles sont de plus en plus éduquées. L'école de la République forme ses premières élites féminines et grâce à Simone de Beauvoir et à ses mémoires d'une jeune fille rangée, elles savent qu'on ne naît pas femme mais qu'on le devient.
On m'a demandé quelquefois pourquoi j'avais passé 7 ans à écrire mon autobiographie. Et en effet, elle représente une partie importante de mon œuvre. Puisqu'il y a 3 volumes, les mémoires d'une jeune fille rangée, la force de l'âge, la force des choses. J'ai intitulé le dernier volume « La force des choses » parce qu'il va de 1945 à 62 et à cette époque, depuis la guerre, je me suis rendu compte de l'importance que les circonstances avaient dans le déroulement d'une existence, alors qu'auparavant, je croyais que ma vie était une histoire que je me racontais. Mais il y a aussi une raison pour laquelle j'ai écrit ces livres, c'est que personnellement, j'aime beaucoup lire les autobiographies. Et tout ce qui est en somme des documents bruts, ou mémoires, souvenirs, journaux, etc. Il y a une certaine qualité dans la vérité, précise, factuelle, qu'on ne peut pas retrouver dans les romans, même les meilleurs, même les plus inspirés, même les plus profonds.
La voix de Simone de Beauvoir dans La Marche du Monde. La philosophe Simone de Beauvoir pense en 1958 ce que vous appelez aujourd'hui la fabrique des femmes, Rebecca Rogers. Qu'est-ce que Simone de Beauvoir met en évidence pour la première fois à l'époque ?
Elle écrit ce livre, Le Deuxième Sexe, en 49, qui est tout un très long plaidoyer pour montrer le poids des événements, mais aussi de l'éducation, de biologie, qui fait que les femmes, effectivement, sont fabriquées pour être d'une certaine manière et pour réagir contre quelque chose qui serait vécu comme inéluctable, hein. Et c'est pas très bien entendu à l'époque, mais je dirais c'est plutôt dans les années 60 où là les féministes vont s'en saisir de cet ouvrage pour dire oui, on peut changer cette vision des femmes.
Alors Beauvoir, grâce donc à Jules Ferry, si on a bien suivi depuis le début, elle a eu son bac en 1925 et son père, qui avait rêvé d'un fils polytechnicien, lui disait « Simone, tu as un cerveau d'homme ». Ça montre bien la mentalité de l'époque.
Ah oui, hein, c'est clair que dans les années 20, ses ambitions intellectuelles choquent son père, qui a envie qu'elle soit éduquée, mais qui n'a pas envie qu'elle utilise cette intelligence pour quitter le rôle d'une bonne mère dans une famille catholique.
Et c'est tout le paradoxe que vous décrivez tout au long du XXe siècle en tant qu'historienne et spécialiste de l'histoire des femmes, et encore plus après 45, c'est-à-dire une évolution spectaculaire, écrivez-vous, naviguant entre un éternel féminin et une émancipation durement conquise.
Oui, et c'est ça qui est merveilleux dans l'éducation, je pense, hein, parce que ça a ses deux potentialités depuis toujours et partout. Et c'est vrai que la tâche de l'historien, c'est de voir les moments où, en tout cas, nous, dans notre livre, on a voulu montrer les moments où les femmes se sont appropriées une éducation qui pouvait être conservatrice dans ses messages, mais pour en faire autre chose, tout en montrant que, voilà, le message est très souvent conservatrice.
Et en 1954, un charmant petit monstre fait scandale avec son premier roman. Dans Bonjour Tristesse, Françoise Sagan met en scène les expériences sexuelles d'une très jeune femme. Comment expliquez-vous le succès absolument phénoménal que rencontre le livre, et encore aujourd'hui, puisque j'ai vérifié, il a été tiré maintenant à plus de 2 millions d'exemplaires. 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde.
C'est un magnifique coming of age story, n'est-ce pas? Et en décalage avec ce dont on a l'habitude, quand c'est le garçon qui raconte ses expériences. Alors je pense que ça titille d'autant plus garçon et fille, j'imagine, parce que c'est la jeune fille ne devrait pas vivre ce type d'expérience, ni les souhaiter. Donc elle, c'est quelqu'un qui revendique la sexualité féminine, et ça, c'est quelque chose qui est encore difficile dans beaucoup de milieux à entendre.
Françoise Sagan, est-ce que vous êtes consciente du succès que vous avez eu?
Oui, on me l'a assez reproché pour que je le connaisse.
Ça vous a peiné qu'on vous le reproche?
Non, classique, c'est même normal.
De toute manière, on ne vous a pas reproché votre succès.
Oh, si, beaucoup de gens.
On a reproché les prolongements du succès. D'ailleurs, les voitures rapides. Vous avez même reproché un accident, ce qui était quand même un peu excessif.
Non, c'est-à-dire... Comme on ne peut pas reprocher un succès, on peut pas reprocher à un public d'acheter tant d'exemplaires de livres, on cherche après à s'attaquer à la personnalité propre de quelqu'un. On ne s'attaque plus du tout à son œuvre, on s'attaque à la personne elle-même. Alors le whisky, les voitures, je ne sais plus quelle zannerie, c'était l'occasion de me tomber dessus, mais... En fait, le reproche était de la réussite, je crois.
Sacré Sagan. Si l'expérience de la liberté sexuelle a fait le succès et le scandale du livre de Sagan dans les années 50, où les filles ont massivement rejoint les bancs de l'école, on se rend compte, en vous lisant, Rebecca Rogers, que certes, il y a un accès égalitaire à l'éducation, mais que l'éducation reste très longtemps différenciée. Alors concrètement, comment ça se passe, par exemple, au niveau des exercices avec le maître ou la maîtresse, ou encore au niveau des dictées, parce que votre livre, votre album, j'allais dire, regorge de documents avec ces dictées reproduites. Racontez-nous ça.
C'est vrai que l'une des dictées qui est le plus frappant, ou un exercice décrit en cours maternelle en 1960, où une jeune fille raconte que dans une famille, la maman fait les repas, la vaisselle, et parfois elle a un métier comme le père. Et on voit en 1960 que encore, bon, il y a des petits progrès, on envisage le travail des femmes, mais on envisage surtout le rôle de la mère dans le foyer.
Voilà, on voit bien qu'on continue à transmettre les archétypes et les stéréotypes, hein, on dit aujourd'hui, de la femme et de l'homme. Chacun ses tâches, comme si rien n'avait changé. Alors, elles ne sont du coup à l'époque, les femmes, qu'une minorité à atteindre les plus hauts niveaux, et notamment la prestigieuse École Polytechnique.
Il existe à Paris une école assez inconnue du grand public, qui est l'École Polytechnique Féminine. Or, cette École Polytechnique Féminine est fort importante, puisqu'elle décerne un diplôme reconnu par l'État et forme des jeunes filles ingénieures qui sont très recherchées, en particulier dans les bureaux d'études de toutes les grandes affaires, mais aussi dans l'aéronautique, dans les laboratoires de recherche pour la radio, la télévision, etc.
Mais le problème, c'est que les élèves de cette école sont encore sans école fixe.
Les cours ont lieu au lycée La Fontaine, à la porte d'Auteuil, mais malheureusement, nous n'avons pas de bâtiment fixe et nous sommes un peu... errante d'école en école, puisque nous avons d'abord été à l'école centrale, ensuite au conservatoire des arts et métiers, et maintenant nous sommes au lycée La Fontaine en attendant d'avoir une école à nous, et qui, nous espérons, sera construite dans à peu près un an. Notre directrice, Mlle Paris, justement, s'occupe d'avoir des prêts auprès des industriels, afin d'avoir les fonds nécessaires pour construire cette école.
J'essaie de tout mon cœur d'y parvenir. Je dois dire que Mademoiselle Paris, c'est sinon aérodynamique, mauvaise plaisanterie, disons simplement, très dynamique. Mais en fait, je dis aérodynamique parce qu'elle est, n'est-ce pas, pilote d'avion elle-même.
Oui,
enfin.
Justement, elle a construit un prototype il y a quelques années.
Oui, c'est vraiment une femme tout à fait remarquable, oui. Et qui est parfaitement à sa place là.
Alors, il faut trouver de l'argent à l'époque pour cette toute nouvelle élite féminine de Polytechnique, Rebecca Rogers.
Il s'agit de l'école polytechnique féminine, qui est une institution qui naît après la Première Guerre mondiale. C'est étonnant, on ne savait pas qu'il y avait des filles qui entraient dans des écoles. Certaines des grandes écoles deviennent mixtes au moment de la Première Guerre mondiale. Mais elles restent une toute petite minorité, et c'est clair que... On n'a qu'à regarder les chiffres encore de nos jours du nombre de filles dans ces établissements. Ça reste une conquête, quelque chose qui est exceptionnel, de jeunes filles qui sont pas dans la norme mais qui, à la limite, se rapprochent des garçons.
Accrochez-vous, les filles. Mais la grande révolution à l'école va être la généralisation de la mixité de 1957 à 1976. Et ce n'est pas une mince affaire. D'ailleurs, dans le Grand Larousse encyclopédique de 1963, on peut lire « Mixité non féminin, état d'une école où les filles et garçons sont admis, certains éducateurs émettent des doutes sur l'efficacité de la mixité. » J'ai trouvé ça pour vous, Rebecca.
Oui, oui. C'est étonnant, moi, cette histoire de la mixité me fascine. Venant des États-Unis, où j'ai toujours été dans un établissement mixte et que je ne me posais pas tellement cette question, mais on voit une forte réticence vis-à-vis de la mixité, avec l'idée... Je pense en partie impulsée par l'Église catholique que, en mettant ensemble les garçons et les filles, chaque sexe va déteindre sur l'autre, et ça, c'est évidemment mauvais. Que les garçons vont devenir un peu des femmelettes et les filles vont devenir des hommasses. Alors, il y a quelques pédagogues un peu dans la mouvance de l'éducation nouvelle qui, au contraire, pensent que ça va donner un peu de tonus aux filles et rendre les hommes un peu plus doux et moins bruts dans leurs rapports sociaux. Donc, c'est un vrai débat en France.
Tout à fait. C'est tout à fait naturel pour vous en tant qu'Américaine, cette mixité à l'école. Il y a évidemment des réticences en France à l'époque de l'après-guerre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez aussi travaillé sur l'éducation en Afrique, Rebecca Rogers. Et alors, quel accueil pour la mixité avec les enseignants, les élèves que vous avez rencontrés ?
Non, c'est vrai que ça dépend énormément des endroits, mais c'est clair que dans les pays qui ont été influencés par le modèle français...
L'Afrique de l'Ouest francophone, par exemple.
On a tendance, et notamment par un modèle missionnaire porté par des congrégations religieuses, eh bien la non-mixité, c'est aussi un moyen pour les jeunes filles d'aller à l'école, parce qu'on ne voudrait pas, les familles ne voudraient pas que leurs filles soient dans un établissement entouré de garçons. Donc c'est compliqué, la mixité.
Mais que serait la libération de la femme sans la modernisation des arts ménagers ?
Cette année, la course au confort a pris un départ foudroyant au salon des arts ménagers, qui déjà regorge de monde. Nous avons ici une jeune conseillère ménagère de l'EDF qui a bien voulu venir nous donner les tendances du salon 1960.
Alors, beaucoup de nouveaux petits appareils spécialisés. Autrement, beaucoup d'améliorations de détails dans tous les gros appareils.
Dans tous les gros appareils, par exemple
Ah, la machine à laver rotative, le lave-vaisselle, le réfrigérateur, autant de progrès techniques qui, indiscutablement, ont facilité la vie des ménageurs. Mais ces femmes qui ont leur bac, qui votent, qui conduisent, qui travaillent, savez-vous qu'en 1965, elles sont toujours considérées comme des mineures par la loi française ?
On a noté qu'en général, les femmes votent plus tôt que les hommes. Cette année, les femmes sont très nombreuses. Elles représentent 53% du corps électoral. Et savent bien ce qu'elles veulent. C'est véritablement la libération de la femme, une décolonisation de la femme mariée. C'est de cette façon qu'on résume d'une formule la réforme des régimes matrimoniaux décidée hier par le gouvernement. En un mot, la femme sera enfin majeure.
« Merci d'écouter La Marche du Monde sur RFI. Nous sommes en 1965 et nous, les femmes, venons juste d'obtenir notre majorité. Nous sommes contentes. Qu'est-ce que cela signifie exactement, Rebecca Rogers? Qu'est-ce que ça change dans notre vie quotidienne?
Je pense là, ça a rapport avec la possibilité pour les femmes d'ouvrir des comptes en banque sans l'autorisation du mari. Et du coup, c'est vrai que c'est l'indépendance financière. Hein, c'est la possibilité de disposer de son salaire comme on le souhaite. Et c'est certainement un peu le nerf de la guerre, hein, de pouvoir avec ce qu'on a acquis par le biais de l'éducation, par les diplômes qu'on a, de vraiment pouvoir imaginer son avenir sans être à deux.
Et c'est une situation, hein, cette non-indépendance financière et juridique, hein, que connaissent encore nombre de femmes dans le monde. Je pense notamment à l'Arabie Saoudite. Alors évidemment, avec la révolution sociale et culturelle de mai 68, les femmes vont transformer l'essai et faire leur propre révolution en 1970 avec le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes. Et c'est aussi un moment où des personnalités féminines, vous le soulignez dans votre livre, des actrices notamment, vont prendre la parole. Écoutez Jeanne Moreau au micro de Jacques Chancel.
Il est certain que dans la vie de la société, il y a des choses à faire pour défendre les femmes. Pour défendre les femmes et surtout pour leur donner une place qu'elles méritent. Parce qu'il y a des postes qui leur sont interdits. Et en Amérique, c'est même beaucoup plus qu'en France. Je déjeunais à midi avec Anaïs Nin, elle me disait, par exemple, une chef monteuse, en Amérique, ça n'existe pas. Ça a été un énorme choc quand, lors des derniers Oscars, c'est une chef monteuse française qui a eu un Oscar. Il y a un tas de choses qui leur sont interdites. Et il est certain que une femme, lorsqu'elle entreprend quelque chose, est toujours traitée avec un peu de condescendance. Elle est moins payée que les hommes.
On trouve que ça ne fait pas sérieux.
Voilà, on trouve que ça ne fait pas sérieux.
Les métiers interdits en France, mais aussi aux États-Unis, ce qui ne correspond pas forcément aux idées reçues sur l'Amérique, Rebecca Rogers.
C'est vrai que les femmes travaillent moins aux États-Unis qu'en France. Hein. C'est l'une des choses qu'on voit bien, les historiennes et les sociologues du travail, hein, l'importance du travail en France. Et je pense que ça conditionne le rapport aussi à l'éducation, aux droits civiques, le fait que, voilà, c'est pas du tout exceptionnel que les femmes travaillent, même dans ces années après-guerre où il y a cette incitation à participer au salon des armes ménagers, par exemple. Et ça, c'est vraiment une forme de spécificité française, hein, l'importance du travail.
Tout en faisant des enfants, hein, d'ailleurs.
Tout en faisant des enfants, parce qu'on a des écoles dès 3 ans et aussi des crèches de plus en plus aussi.
Alors justement, à l'école, on y retourne. Rebecca Rogers, en cette rentrée, c'est le mois de septembre, puisque c'est là où se fabriquent les filles. Et revenons à l'éducation sexuelle, telle qu'elle est enseignée dans une école devenue totalement mixte en 1974. C'est le lycée Carnot à Paris.
Ben à partir de la 6e, ça fait partie du programme de sciences naturelles, donc ça ne pose pas de problème. Puisque ces petits-enfants commencent à partir des animaux et que ça n'a rien de plus difficile de le comprendre à partir de l'être humain. Bon, mais beaucoup plus petits, de toute façon, c'est la même chose, ils posent des questions tout seuls. De toute façon, on est tellement dépassés par nos enfants que l'éducation sexuelle, ils savent s'en débrouiller tout seuls et se renseigner tout seuls.
Bah, c'est comme on fait les enfants. La vie de l'homme, quoi.
Et est-ce que tu en parles avec tes parents? Est-ce que tes parents t'en ont parlé?
Oui, beaucoup. Ils m'ont dit comment ça se passait. Et ben... Et ben non, je l'ai jamais fait. Non. Et ben il y a l'homme qui met une graine chez la femme et puis la femme donne un bébé. C'est lui qui a résumé, hein.
La souris mâle introduit son pénis dans le
cœur éclate. Il a envie de jouer et de s'éparpiller en 100 000 folies. Mon cœur explose de trop vouloir aimer.
On peut se demander, finalement, aujourd'hui, là, depuis 2011, pourquoi certaines connaissances comme la sensibilisation à l'homophobie ou encore la question des stéréotypes féminins et masculins font à ce point polémique en France. Alors, on a beaucoup parlé de cette fameuse soi-disant théorie du genre qui viendrait de chez vous, les Américains. Alors, qu'en est-il, hein?
Bon, ça a été beaucoup dit, hein, la théorie du genre n'existe pas. Le genre, c'est vraiment une catégorie d'analyse, c'est une manière de penser les différences de sexe, comme les classes sociales permet de penser les différences liées au niveau socio-économique. Et c'est évidemment une richesse pour comprendre la société, parce que toutes nos sociétés sont divisées entre des hommes et des femmes, et c'est extrêmement structurant dans toutes les sociétés. Évidemment, je pense qu'en France, la réaction a été en partie couplée avec toutes les changements par rapport à la famille. C'est là où on comprend mieux, parce que là, pour le coup, il y a d'énormes transformations dans ce que c'est une famille, et on peut comprendre que ça déstabilise. Mais de là à accuser les chercheurs qui utilisent le genre pour penser les différences entre les sexes dans les sociétés, c'est quand même très, très étonnant.
Bon, d'ailleurs, la rumeur s'est tout de même dégonflée et ça s'est calmé. Alors, il y a 40 ans, en France, en tout cas, pour pouvoir justement réaliser d'une façon un peu plus large cette égalité entre femmes et hommes, en France, Giscard d'Estaing, le plus jeune président de France, créé un secrétariat d'État aux affaires féminines.
Françoise Giroud, nommée secrétaire d'État à la condition féminine, la directrice de l'Express avait été reçue ce matin par Valéry Giscard d'Estaing, puis il y a quelques instants par le chef du gouvernement Jacques Chirac. Françoise Giroud vient de sortir de cette entrevue avec le chef du gouvernement et je crois que nous sommes en liaison en direct avec elle. Alors Françoise Giroud, cette nouvelle constitue pour chacun d'entre nous une surprise. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous aviez été pressenti, mais non nommé au gouvernement, et aujourd'hui?
Écoutez, pour moi, rien n'a changé. Le président de la République m'avait en effet fait cette proposition il y a quelques semaines. Elle m'a été confirmée aujourd'hui par le Premier ministre, je l'ai acceptée.
Alors, pourquoi faire?
Ah, je pense qu'il y a une grande idée générale qui est que le moment est vraiment venu de s'occuper d'améliorer la condition féminine en France. Et par améliorer, j'entends personnellement changer sensiblement le rapport entre l'égalité des droits des hommes et des femmes. Les femmes et les hommes n'ont pas aujourd'hui les mêmes droits en France. Ça ne signifie pas que les femmes vont devenir égales des hommes, ce qui n'a pas grand sens. Elles sont différentes, mais leurs droits doivent être les mêmes.
Je m'adresse à l'historienne que vous êtes. Vous avez étudié le XXe siècle en France. Vous avez une expérience américaine de par votre naissance et vos études. Est-ce qu'il faut légiférer pour que ces droits existent d'abord et soient appliqués?
Bon, c'est évident qu'il faut légiférer, il faut des lois, on voit bien dans les lois récentes que ça reprend des lois qui ont déjà été actées et que il ne suffit pas de passer des lois pour que l'égalité devienne automatique dans la société.
Donc, d'où les observatoires de l'égalité, d'où l'implication des entreprises, il faut un contrat social pour mettre en œuvre ces lois.
Bon, c'est clair que c'est un pas, c'est pas toujours le premier pas, mais parfois c'est le premier pas, et puis ensuite, il faut de l'éducation. Alors, je dirais l'éducation dans les établissements scolaires, mais l'éducation civique, tout simplement, pour expliquer pourquoi, en effet, on a encore besoin de ces lois et que ça fait 40 ans en France qu'on tourne autour de lois sensiblement les mêmes pour l'égalité dans le travail. Et on voit encore de très grandes inégalités.
Rebecca Rogers, quand on fait partie de la jeune génération et qu'en fait on jouit pleinement de tous ces droits, est-ce qu'on se rend forcément compte de la nécessité justement de cette législation et de la pertinence de la continuité du combat?
C'est clair, mes étudiants, et qui sont surtout des étudiantes, s'en rendent absolument compte, hein, d'où l'importance de l'histoire pour leur montrer que c'est au fond un combat récent, hein, quand on regarde les 50 dernières années. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, maintenant, dans les universités, on est de plus en plus à vouloir sensibiliser l'ensemble des étudiants à ces questions. Parce que pour des jeunes de 20 ans, sans doute, c'est incompréhensible, certains de ces débats. Tant qu'on n'a pas été dans le monde du travail, on a été à l'école, les filles réussissent plutôt mieux à l'école, donc on se demande vraiment de quoi elles parlent ces féministes.
De quel combat s'agit-il ? Effectivement, dans le monde du travail, et surtout en grande période de chômage, comme actuellement dans le monde entier avec la crise, c'est d'autant plus flagrant.
Oui, et dès qu'on regarde, par exemple, tout ce qui concerne le temps partiel, c'est les femmes, très majoritairement, qui sont concernées par ça. Qui dit temps partiel, dit aussi revenus bien moindres à la fin du mois, des retraites moindres, donc ça a des conséquences en chaîne. Et là, je pense que quand on a 20 ans, on a un peu de mal à concevoir ça.
Merci Rebecca Rogers. Je rappelle que votre Fabrique des filles est pleine d'images et de documents formidables. Un siècle d'éducation des filles à découvrir aux éditions textuelles. Un album co-écrit avec Françoise Thébault.
Est-ce qu'elles sont belles ces nanas ?
Mon déesse !
Ah la vache ! Qu'elles sont belles !
Diablesse !
La Fabrique des filles, c'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompéani. N'oubliez pas de vous exprimer, les filles et les garçons, sur marche.monde@rfi.fr. N'hésitez pas à partager vos témoignages sur Facebook. D'où que vous soyez dans le monde, podcaster cette émission, c'est la vôtre.
Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma. Restez pucelle chez votre papa. Devenez serveuse chez un bougnat. Élevez des singes, élevez des chats. Vendez des boîtes de chocolat. Mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Surtout, ne vous mariez pas.
Qui c'est qui a dit que les filles maintenant n'étaient plus comme celles d'avant? Qui c'est qui a dit? Qui c'est qui a dit tout ça? C'est qui a dit tout ça? C'est qui a dit que les filles maintenant n'étaient plus comme leur maman? C'est qui a dit?